Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Et pour revenir juste sur l'Irlandais, donc le moment où il t'a dit ça, là t'as eu un déclic.
Ouais, là c'était vraiment... déjà il était diablement sexy. Le fait de dire ça, ça m'a excité comme pas possible, parce que j'étais en mode, tu m'acceptes comme je suis. Genre, c'est trop excitant ça. Et ouais, sur le moment c'était vraiment...
Du coup t'as eu l'impression que t'étais encore plus chaude.
Oui.
Ouais, carrément.
Bah oui, bien sûr.
Et donc avec le Québécois, c'était aussi plus simple. Enfin, après, ça s'est déroulé...
C'est ça, exactement. Ouais, complètement. Et puis après, la personne qui est arrivée après tout ça, ça a été Léo avec qui... Enfin, mon mec avec qui on s'est remis ensemble. Et lui, pour le coup, c'est pareil, c'est une évidence. Il n'y a même pas de question à se poser, quoi.
Mais alors, comment ça se fait que tu es sous souci-là avec des mecs avec qui tu kennes pas? Ou même avec des meufs, je sais pas. Si... D'ailleurs, est-ce que ce rapport-là, est-ce que cette peur du jugement, tu l'as qu'avec les hommes? Ou est-ce que c'est de manière générale aussi de la part des femmes?
Dans le contexte très précis de la danse, c'est sur tout le monde.
Ok.
J'ai envie de me fondre dans la masse. J'ai envie d'assumer tous les codes. C'est très particulier, ça me fait le fait que là. Parce que je vais en soirée, Il n'y a aucun autre endroit où...
Tu disais tout à l'heure qu'à la plage, tu portais des shorties, donc pas que, quand même.
Oui, c'est vrai, t'as raison, mais j'avais aussi des moments où j'étais en mode, allez, j'y vais. Tu vois, j'avais aussi des moments où c'était vraiment... En fait, ça, c'est ce que je l'ai exprimé déjà dans des vidéos. Quand t'as l'esprit, la santé mentale, qui est disposé à être en mode, je m'en fous des regards, ça va bien se passer, je suis qui je suis, je m'assume, etc., et bah, tu peux y aller avec tes poils en string à la plage.
Mais en fait, plus que je m'en fous de qui je suis, est-ce que du coup, ces différentes expériences sexuelles-là avec ces mecs-là dont tu me décris, est-ce que ça t'a pas... Est-ce qu'il n'y a pas une partie de toi où tu t'es même dit, putain, mais peut-être qu'en fait, je suis même hyper sexy avec mes poils?
Ouais, parce que moi, quand je me rase les aisselles, j'ai l'impression d'être un blanc de poulet.
Et du coup, ça te rendrait pas sexy de danser là, non, dans ce contexte-là, non. C'est ça que j'essaye de...
Oui, je comprends.
J'essaie de comprendre.
Il y a un vrai paradoxe. Hein. Mais bon, j'ai assumé que l'être humain était profondément paradoxal.
Ah bah, ça, c'est sûr.
Voilà. Mais...
Take me out of my misery.
C'est que...
No, we're not gonna fuck. Oh, no.
Just
live nearby, you know.
Yeah, please, just come walk around with me.
C'est cela, voleur du ukulélé, bien sûr.
Je dirais que quand j'ai l'impression d'être un blanc de poulet, quand j'ai pas mes poils, c'est mon regard à moi. Quand je vais danser, c'est pas mon regard qui m'inquiète, c'est le regard des autres. C'est le fait que vraiment, pour le coup, si on continue dans le nez dans les aisselles, il y a vraiment des moments... Quand t'es collé serré dans la danse, surtout je danse la bachata sensual, donc c'est très 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 collé serré, il y a vraiment des moments où tu as le nez de la personne très proche de tes aisselles. Et donc vraiment, genre, c'est frontal. Je sais que ça va être vu, ça va être analysé, ça va être passé au prisme de notre société, tu vois, inévitablement, du regard qu'on est habitué à avoir, quoi.
Et tu crois pas que... Parce que ces personnes-là, c'est un groupe de danse, donc tu les revois toutes les semaines, j'imagine?
Non, bah alors c'est...
Ah non, okay.
Je danse jamais au même endroit. Là, tu vois, moi j'habite pas à Paris, on est à Paris.
Ouais.
Je suis allée danser hier soir, je connaissais personne. Déjà, c'est déjà tellement... Comment dire? Niveau vulnérable,
ouais, okay.
Niveau prise de risque, aller seule dans une soirée où tu connais personne, alors que je suis pas une excellente danseuse, hein, j'ai commencé en septembre. C'est déjà beaucoup, je vais pas en plus rajouter des poils, tu vois.
Ouais,
voilà.
Bon,
en l'occurrence, j'étais sapée en manches longues, donc c'était pas une question, mais je vais pas rajouter
ça. Oui, là, dans ce contexte-là, t'es déjà en train de te faire des amis, donc t'as pas envie de rentrer dans ce débat-là et d'avoir des conversations alors qu'en fait, t'es pas venue là pour ça.
Exactement, j'ai juste envie de danser.
Ouais.
Et j'ai envie de danser le plus possible. Donc j'ai pas envie. je sais pas, que certaines personnes veulent pas m'inviter parce que j'ai des poils, parce que oh, ça veut dire qu'elle est féministe. Tu vois, enfin, des trucs comme ça. Alors, c'est pas le moment où j'ai
ou,
envie.
Ou qu'elle pue, ou.
Oui,
voilà.
Oui, par exemple. Et il y a aussi quand même un code dans la danse qui est de te raser les aisselles, peu importe quel est ton genre.
Ah bon ?
Ouais, c'était.
D'accord.
Ma grand-tante était danseuse professionnelle de tango. Et genre, wow, vraiment.
C'est beau, ça.
Ouais. Bah, on est sur un niveau assez, assez élevé. Et vraiment, c'était obligatoire. C'était dans son école de danse. Peu importe que tu sois un homme, une femme, leader ou suiveur, tu devais te raser les aisselles parce que, justement, le principe de la danse, c'était d'être collé serré. Et donc, tu pouvais pas imposer la vue des poils. Donc, c'est vraiment un code en plus, quoi.
Ah oui, donc c'est intéressant. C'est culturel aussi, enfin lié vraiment à la pratique. Bah... Alors tu vois, moi j'ai fait pas mal de danse classique, et c'est vrai que dans la danse classique, pareil, enfin j'étais dans une école assez stricte, donc, okay. Donc c'est vrai qu'arrivé à un certain âge, on avait un type de tenue, et que du coup, bah, souvent c'est des couleurs chères, donc on voit au travers, etc. Le chignon, il faut qu'il soit extrêmement bien serré, enfin il faut que tu saches faire ton chignon, enfin ouais, j'ai vraiment, je viens de cette éducation-là, tu vois, à la base, voilà, j'ai bien changé depuis, mais, mais ouais, ce truc assez, ouais, là pour le coup, la féminité doit être incarnée sous tous les angles également, enfin grosse pression là-dessus. Et justement, arrivé à l'âge de 12-13 ans, quand on commence à avoir des poils qu'on sait même pas trop... que ça s'appelle des poils d'ailleurs, mais enfin voilà, quand on arrive à cet âge-là, et eh ben, on nous dit déjà de plus porter de culotte.
Hein,
on n'a plus le droit de porter de culotte parce qu'on voit les traces et c'est pas féminin, c'est pas beau. Donc t'as 12-13 ans et tu dois plus porter de culotte sous ton tutu. Et puis du coup, bah comme on commence à avoir des poils, bah déjà tu commences déjà à avoir cette notion où bah, ok, faut les enlever parce que bah, une danseuse c'est censé censé rien avoir en fait. C'est juste, c'est pas une question de poil ou pas poil, c'est juste on est censé voir du nude. Enfin.
C'est être de, complètement lisse quoi.
Oui, et en fait, on est plus parce que c'est pour voir la danse, c'est pas pour voir finalement. Un peu comme si on extrapole dans un autre domaine, un peu comme la mode où le modèle, c'est un cintre. Et c'est plus un corps. C'est
t'es qu'un véhicule en fait quand tu fais de la danse classique, c'est le ça. Véhicule de la chorégraphie, t'es pas vraiment un corps en soi. T'es qu'un corps, mais un corps très, tellement codifié qu'il a aucune individualité, quoi.
Exactement. Et c'est vrai que, tu vois, c'est marrant qu'on parle de ça, parce que j'avais complètement oublié, mais ouais, que ça m'avait marqué déjà ce truc de plus porter de culotte, alors que déjà, tu sais que bientôt, il va se passer un truc, genre tu as tes règles, mais t'as pas trop compris encore ce que c'était.
Oh là là.
Et puis même, tu sais, on voit tes fesses. Enfin, ça, il y a ce truc, du coup, où, en fait, bah non, mais tu n'as pas le droit d'être pudique. Enfin, on ne t'autorise pas.
En fait, on nie, tout en te sexualisant et en t'objectifiant, on nie ta propension et ta possibilité à avoir une intimité. C'est ouf.
Ouais.
C'est terrible, la danse classique. Hein. Pour moi, ça, pour supporter toutes les normes que ça te fait peser sur ton corps, il faut avoir un mental d'acier, parce que je trouve que ça détruit.
Bah c'est anti-naturel, hein, même les postures. Enfin, il y a beaucoup d'anciennes danseuses étoiles qui se mettent au yoga, qui deviennent profs de yoga à la suite. Et justement, elles font ça un peu en disant, bah, en fait, parce que la danse classique, c'est tellement traumatisant que justement, je guéris mon corps avec des postures de yoga ultra naturelles et je redonne à mon corps la flexibilité qui lui convient à lui et pas quelque chose sur quoi j'ai forcé pendant des années. Et oui, en effet, il y a plein de rapports au corps dans la danse classique qui sont particuliers. Ouais, c'est pas une danse très 2023. Bon, ça n'empêche pas que je trouve ça très beau et que j'aime toujours beaucoup. Bon, je pratique plus depuis longtemps, mais oui, c'est vrai que ça pose plein de questions, plein de questionnements sur le rapport et, comme tu dis, toutes les tensions. Enfin, toute la pression sociale qu'on met sur les performeurs.
Ouais, c'est impressionnant.
Ouais.
Mm-mm.
Carrément.
Bon, donc on n'est pas à ce niveau-là dans la bachata, hein. Mais bon. C'est le principe que ce soit social, tu vois, que justement tu
Et puis, il y a plus d'interactions hommes et femmes, donc il y a une sensualité. Enfin, comme tu dis, t'as les bras l'un dans l'autre. Donc, ouais, quand même, c'est hyper sensuel, la bachata. Donc, je peux comprendre.
Ouais, complètement.
Et pourquoi il t'a volé ton ukulélé?
Alors, j'ai le syndrome de la sauveuse, hein. En mode quelqu'un va, un homme notamment, pour tout le monde, mais particulièrement pour les hommes, va pas bien, je vais le sauver. Donc le guide disait, ouin ouin, je suis musicien et j'ai pas d'instrument, mon ukulélé est en Irlande, et j'ai pas de sous pour m'en acheter ici. Moi, j'en avais un. Donc je lui ai dit, mais t'inquiète, je te le prête, évidemment. Donc je lui prête mon ukulélé, et après, il me la met à l'envers, parce que il me dit, donc ça c'était, je sais plus trop, je te fais pas toute la chronologie, mais en gros, on a passé, je pense, un mois et demi à se voir, quelque chose comme ça. Et à la fin, il me ghostait un peu, donc il avait mon ukulélé, hein. J'y tiens, le plumeau bouge frénétiquement. Et vraiment, il avait mon ukulélé et on s'était vu quelques fois, il était de plus en plus fuyant. Et vraiment, à la fin, je lui dis, bah écoute, je vois bien que tu refuses qu'on se voit, qu'est-ce qu'il se passe? Et il me dit vraiment, Lou, t'es pas prête. J'ai vraiment honte pour lui. Il me dit, bah là, actuellement, j'ai vraiment pas le temps. I am married to my music. Il m'a vraiment dit ça premier degré. J'ai vraiment honte pour lui, c'est ridicule.
Et il me dit vraiment... C'est tellement lâche, juste de te dire, bah meuf, j'ai peut-être plus envie, je suis pas intéressée.
T'es pas prêt pour la lâcheté, vraiment, la lâcheté qui va suivre.
Oh mon dieu.
On est sur, vraiment, je pense que c'est le plus gros lâche avec qui j'ai couché. J'ai vraiment couché avec des lâches. Donc déjà, premier niveau de lâcheté, il me dit... I am married to my music, on peut plus se voir parce que vraiment là ma priorité c'est de créer. Je dis ok. Et deux semaines après, poste Facebook avec une photo en couple avec telle meuf.
Le ukulélé, non pardon. Le ukulélé avec une petite robe de mariée. Sous un arbre, ils font un câlin à trois.
Oh, I wish, là, ça aurait été la preuve qu'il se prenait pas au sérieux. Mais non, pas du tout. Il s'est mis en couple avec une meuf deux semaines après m'avoir dit « I am married to my music ». Enfin, vraiment, genre... Et il l'a publié sur Facebook.
Pas capable d'accepter la vérité, quoi. Mais enfin, c'est juste ça. Juste, mec, dis-moi que t'es pas chaud et puis on s'en
mais
fout, quoi.
Exactement. Mais vraiment, enfin, aucun souci,
quoi. Par contre, moi, mon ukulélé, stop.
Exactement. Exactement. Et donc, je lui envoie un message en mode, tu te fous de ma gueule. Ben, je peux accepter, mais tu me dis pas, je suis pas prêt à être en couple. Je t'adore, mais je suis pas prêt à être en couple pour te mettre en couple avec quelqu'un d'autre deux semaines après. Me prends pas pour une débilose. Tu me dis, j'ai rencontré quelqu'un d'autre.
Ouais, c'est
irrespectueux. Je suis tombée amoureux.
C'est nul. C'est nul. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça
c'est
va, quoi.
Ça.
En plus, toi, t'avais quel âge?
21.
Ouais, non, mais voilà, non, mais c'est bon.
On n'a pas 14, non, enfin, oui, et puis je.
Oui, et puis on n'en a pas non plus 45. Enfin, c'est pas comme si on était en train de. Enfin, voilà, vous connaissiez depuis pas longtemps.
Ouais, enfin, il n'y avait aucune pression, quoi. C'était. Ben non. En fait, il me mettait dans une position où j'étais, moi, celle qui faisait chier, tu vois. Enfin, c'est bref, typiquement le gaslighting, quoi, trop chiant. Et donc, il me.
Le gaslighting, tu dis ?
Le gaslighting, tu connais pas ce terme ?
Ah non, je connais pas.
Gaz. Lighting, c'est allumer le gaz, quoi. C'est vraiment... Puis t'allumer la mèche. C'est une pratique qui est souvent utilisée dans le cadre des violences conjugales. C'est une violence morale où on va te mitonner, te faire croire que t'exagères. Par exemple, là, je suis en train de parler, tu me dis « Mais pourquoi tu cries ?» Je dis « Mais je suis pas en train de crier. »« Si, tu cries. » Voilà, c'est des trucs comme ça. Où y a des niveaux de gaslighting dans les violences conjugales, notamment, qui sont très, très élevés, où c'est, par exemple, déplacer des meubles dans la maison et être en mode « Mais pourquoi ce meuble, il a bougé ?» Je sais pas. T'es complètement folle, ma pauvre. Ça a pas du tout bougé, ce meuble. Voilà, des trucs comme ça. Ça, c'est le gaslighting.
Oh là, mais pourquoi faire ça ?
Bah, du gaslighting, c'est une forme de manipulation pour avoir raison, je sais pas. Là, récemment, j'ai une amie qui m'a raconté une histoire avec... elle veut se débarrasser de son comptable qui est insupportable. Et vraiment, elle lui dit « Pourquoi tu me demandes 1000 euros de frais de résiliation? Ce n'est pas écrit dans la lettre de mission. » Et le comptable lui dit « Si, c'est écrit. » Je dis « Non, je l'ai sous les yeux, ce n'est pas écrit. » Ça, c'est une tentative de gaslighting. C'est de dire « Bah, si, c'est écrit. » Alors que, genre, les preuves sont là. C'est pas écrit. Voilà, c'est du gaslighting, ça. C'est des exemples. Donc lui me fait le coup de « Non, mais tu comprends pas. Je l'ai rencontré juste après t'avoir écrit. C'était un coup de foudre. » Enfin, il tente de me baragouiner des trucs, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Ah, je vois très bien, mais je comprends toujours pas l'intérêt.
De faire ça?
Bah non.
Bah, c'est vrai que moi non plus, je comprends pas l'intérêt de la lâcheté. C'est même parce qu'on est, bélier et sagittaire, mais moi non plus, je comprends pas l'intérêt d'être lâche comme ça.
Non mais ouais, non mais surtout que c'est fatigant pour toi, c'est fatigant pour lui. Enfin, il aurait juste pu dire bah ouais, je la kiffe et voilà. Et puis j'ai pas eu ces trucs là avec toi et puis stop quoi.
L'honnêteté au-dessus de tout, moi c'est vraiment une des qualités les plus importantes pour moi.
Et puis comme ça, lui il se fatigue pas. Enfin, c'est moins énergivore pour tout le monde aussi. Parce que toi derrière tu comprends pas, donc t'es là en mode mais en attendant pourquoi tu m'as pas rendu mon ukulélé.
Exactement, mais ça a vraiment fait du coup plutôt que ça s'arrête en mode est-ce qu'on peut se voir, je te rends ton ukulélé, désolé, je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Terminé, bonsoir, on n'en parlait plus. Et ben moi, je me suis retrouvée pendant 6 mois à galérer, à lui écrire régulièrement pour récupérer mon fucking ukulélé, alors que je voulais plus en parler de lui.
Du coup, ça te rend dépendante d'un mec dont t'en as rien à foutre. T'es en mode, mais pourquoi?
Exactement, j'étais en mode, je suis pas si accro que ça à ton accent anglais. En vrai, je peux m'en passer à un moment donné. Donc, s'il te plaît, rends-moi mon ukulélé. Et vraiment, on a tenté des trucs. J'étais désespérée. J'ai des amis à moi, on avait un groupe où j'en parlais, où je rageais. Et ils ont une idée super drôle, ils l'ont spammé de messages où ils ont mis hashtag bring back the ukulélé. Enfin, ils ont vraiment. Ils m'ont aidé, hein. J'étais pas toute seule dans la guerre.
Par contre, c'est devenu drôle.
Hilarant.
Ça devient un running gag.
C'était un running gag. Enfin, vraiment, ça a duré 6 mois. Hein.
Tu veux qu'on lui envoie un petit selfie là? On
parle de toi, t'auras un chapitre dans mon livre.
Hashtag bring me back the ukulélé. Mais oui, non mais on va faire ça. Après qu'on ait coupé, faisons ça.
Bah non, sinon. Oh. Ah non, je veux pas le ramener dans ma vie.
Moi, je le tag dans mes stories, si tu veux.
Remember, bring back the ukulele.
Hello, I'm Colette, a friend of Lou. Bring her back.
Je l'ai récupérée.
Ah!
Pour moi, c'était genre, je me suis fait suffisamment rouler dessus comme ça. Frérot, tu vas me rendre mon ukulele. Je vais pas te laisser mon ukulele à 70 balles. Il était pourri, hein, l'ukulele. Mais j'étais en mode. En plus, il est à mon frère. Genre, c'est hors de question que tu gardes ce ukulele. Et il m'a fait tout un truc. Il m'a dit, je suis pas là actuellement, je suis en Irlande. Je trouve vraiment que ton harcèlement est très violent, surtout de faire venir tes amis dans l'histoire, parce que je suis actuellement à l'enterrement de ma petite cousine. Il me baragouine des trucs comme ça. J'ai retéléchargé Tinder parce qu'il y a la localisation.
Quoi, c'était pas vrai? Non.
Il était à l'appartement où je suis allée où il disait qu'il y avait personne. Il était, enfin vraiment. Plus je me rapprochais de l'endroit où il m'avait donné rendez-vous, il me disait « Mon coloc est là, il va te mettre le ukulélé sur le comment on dit ? L'entrée, le hall. »
Le paillasson.
Le paillasson, ouais. L'entrée de l'appart, quoi.
Front porch.
The front porch, exactement. Et il m'a vraiment dit, genre, moi je suis pas là, je suis en Irlande pour
tu
le...
Tu lui as fait peur. Non mais par contre, c'est grave de mentir sur l'enterrement de sa petite cousine. C'est grave.
C'est très très grave. Il a vraiment inventé. Oh, peut-être qu'il ne l'a pas inventé, il l'a peut-être utilisé, ce qui est encore pire, parce qu'il n'était pas en Irlande, vu que sa localisation le rapprochait de plus en plus. Plus je m'approchais de l'appartement, ça passait de 5 km à 4 km à moins d'un kilomètre. Enfin,
oh là là.
Je savais qu'il était là. Enfin, tu vois, puis
t'allais vraiment aller au bout du truc, par contre. T'as eu besoin de prouver que... En fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ce mec, il a vraiment touché une corde sensible chez toi. Il a touché l'estime que tu pouvais avoir de toi. Et il t'a fait douter de toi-même, en fait.
Je dirais plus qu'il m'a aidé à voir mes limites pour aider les gens. Et c'est une des dernières personnes à m'avoir roulé dessus. Je pense que c'est plutôt ça, tu vois. Où je me suis dit, non, je lâcherai pas cette histoire de ukulélé. C'est hors de question. Je sais qu'il est en train de se foutre de ma gueule. C'est pas possible. Je laisserai pas faire, tu vois. Et du coup, avec une amie, on est allé jusqu'à le lieu où il m'avait dit que son coloc, entre gros guillemets, me sortirait l'ukulélé. Et vraiment, il a fait le truc comme s'il était en Irlande et qu'il n'était pas là. Et donc, j'ai récupéré l'ukulélé, mais c'est lui qui m'a ouvert quand j'ai sonné. C'est pas son coloc.
Oh, putain.
Mais juste, lui, il est resté derrière la porte, tu vois. Je le voyais. Je savais qu'il me mentait, c'est pour ça que j'avais retéléchargé Tinder pour voir sa localisation.
Et ce qui est ouf, c'est que du coup, ça te rend folle, entre guillemets. Enfin, ça te donne du coup vraiment cette posture de la meuf harceleuse, folle, machin.
Ouais.
Parce que lui, il est juste pas honnête. Enfin, et du coup, toi, ça te pousse aussi, dans tes limites. Et ça te fait faire des trucs que jamais t'aurais fait ça
d'habitude. Que jamais, c'est hors de question de faire ça. Enfin, tu fais pas ça aux gens. Tu vas pas jusqu'à chez eux pour récupérer un ukulélé. Tu te mets d'accord, tu te retrouves à un endroit. tu prends un café au pire pour te donner des nouvelles. Enfin, ça, c'est faire des choses saines, tu vois.
Non, mais c'est clair.
Mais effectivement, je me suis retrouvée dans une position de devoir écrire tous les mois quand est-ce que je récupère mon ukulélé, avec quel âge. Je ne voulais pas en entendre parler de cette personne. Mais je me disais, je vais pas le laisser avec ça. Bref, du coup, j'ai récupéré l'ukulélé. On a bien rigolé avec ma pote parce qu'on était vraiment en mode, putain, on est vraiment en train de faire ça. On est vraiment en train d'aller jusqu'au perron, c'est ça, jusqu'au perron de sa porte pour récupérer un ukulélé. Genre vraiment, on est en train de faire ça. Donc ça nous faisait rire sur le moment, c'est déjà ça. Et après, vraiment, le frérot a eu le culot de m'écrire 10 minutes après en mode, c'est bon, tu l'as bien récupéré, tout s'est bien passé. Et à ce moment-là, j'ai envoyé un petit message en mode, bah, écoute, genre ça suffit de me prendre pour une conne, je sais que tu étais derrière la porte, je sais très bien que c'était toi qui as tout fait. T'avais ta géolocalisation d'activer sur Tinder.
Merci, au revoir.
Vraiment, juste, ça suffit de me prendre pour une débile. Maintenant, je veux plus jamais entendre parler de toi. Il ne m'a jamais répondu.
Oui, bah oui.
Et bon. Il m'a bloqué instantanément.
Oui, mais au moins, ça y est. Toi aussi, c'est bon. Tu peux le bloquer aussi, on passe à autre chose.
Ouais. Il m'a redébloqué parce que du coup, j'ai eu accès aux échanges vu que je suis en train de tout remonter pour raconter l'histoire.
Tu peux faire ça. T'as demandé à Tinder tous les échanges.
Non, c'est sur Facebook. C'est sur Messenger qui m'avait bloqué.
Ok.
Et du coup, j'ai juste parce que tu sais, vu que il m'a écrit par Instagram, on s'est jamais liké mutuellement sur Tinder. On s'est pas parlé sur Tinder.
Ah
en fait.
Oui, d'accord. Tu ok. Vois ouais. Pardon.
Et donc tout était à l'époque la messagerie qu'on utilisait, c'était Messenger beaucoup.
Ouais.
Et du coup, il m'a débloqué puisque j'ai accès là actuellement à son profil. J'ai remonté tous nos échanges. Donc je sais pas à quel moment il m'a débloqué, parce que je l'ai pas vu moi évidemment, mais là j'ai re-accès à tout et c'est très rigolo de remonter toutes les archives.
Ah là là, puis c'est intéressant de faire ça même pour de l'introspection, pour comprendre soi-même aussi, bah ok, où est-ce que là moi j'ai déconné, où est-ce que j'aurais dû dire non ? Parce que ouais. Finalement la morale de l'histoire c'est ça, c'est que comme tu dis, t'as appris grâce à lui où étaient tes limites et t'as appris qu'en fait c'est un peu de ta faute dans le sens où t'aurais dû dire non plus tôt, ok bah qu'est-ce que j'accepte, enfin... Jusqu'où je laisse la personne entrer dans ma zone ou pas ?
Ouais, jusqu'où je donne en fait, c'est surtout
ouais,
ça.
C'est
après,
ça.
C'est une qualité que j'aime beaucoup chez moi, je sais pas toi, mais moi j'aime beaucoup donner. J'aime
ouais,
beaucoup.
Moi aussi, mais justement, d'où le fait qu'apprendre à connaître où sont ses limites, ça a été. Ça a été toute une étape.
Ouais, de ouf. Bah oui, bien sûr. Parce qu'il y a ce truc de. En fait, on peut pas donner en illimité, il y a un moment donné où on a l'impression qu'on abuse de nous. Et bon, pour moi, c'était le coup du ukulélé, c'était vraiment le truc symptomatique de là, j'ai trop donné. J'aurais pas dû prêter mon ukulélé à quelqu'un qui était pas fiable. En fait, je le savais depuis le début qu'il était pas fiable. J'aurais dû prendre les signes et ne pas prêter quelque chose qui est important pour moi, qui n'est même pas à moi, qui est à mon frère. Ah, et il me l'a rendu avec une cheville et une corde pétée. Évidemment. Donc j'ai dû aller chez le luthier des années après parce que. J'ai gardé ce ukulélé, j'en ai offert un autre à mon petit frère. je l'ai encore ce ukulélé chez moi.
Maintenant, il a une histoire. Hein.
Mais c'est pour ça que je voulais te l'apporter. Ça, c'est genre l'objet qui a le plus d'histoire chez moi au niveau de mes histoires de cul, quoi. Et il est lié d'une certaine façon à l'acceptation de mes poils, puisqu'il a quand même eu cette chose très positive, ce voleur du ukulélé.
Et quand même.
C'est quand même ce grand déclic de moi non plus. Mais du coup, il m'a rendu ukulélé avec la cheville pétée.
Si t'avais 3 conseils à donner, donc je dirais le premier sur le rapport au poil, le deuxième sur le rapport au poids, et le troisième sur la découverte et l'expression de ses propres limites, quel serait-il ?
Ne prêtez pas votre ukulélé.
C'est pas un conseil, ça c'est un ordre, ça. Ça, c'est une chaude recommandation.
Sur l'acceptation des poils, je dirais trouver vous-même votre propre dosage. Dans le sens où c'est pas tout ou rien. C'est pas il faut garder absolument tous ses poils tout le temps ou il faut absolument les épiler tout le temps. C'est votre corps, vous décidez de ce que vous en faites. Et donc, c'est la même chose pour les poils. Vous décidez de ce que vous en faites. Tant que c'est fait en conscience, sans trop sacrifier une partie de soi qu'on n'a pas envie de sacrifier pour la société, je pense que c'est vraiment, finalement, dans l'acceptation de ces poils, ce que je trouve le plus empouvoirant, c'est d'avoir le choix de les garder ou de les enlever. Et de pas forcément devoir les enlever pour participer et être en société. On a l'option de les enlever, mais on a aussi l'option de les garder. Et moi, j'aime bien ça. Genre, trouvez votre dosage, parce qu'en fait, il sera très différent en fonction des périodes de votre vie. Moi, la preuve, les dosages, ils ont été très différents ces dernières années.
Ouais, ça, c'est un chouette conseil, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, les poils, justement, ça bouge comme le poids. Et en fait, on peut décider à un moment donné d'avoir envie de vivre de telle manière et ensuite de changer d'avis et ensuite de rechanger d'avis. Et ce n'est pas grave, quoi. Enfin, on n'est pas, c'est pas forcément aussi un choix immuable. Non, moi, je suis une personne sans poils. Ou non, moi, je suis quelqu'un qui assume ses poils. Ça peut changer et c'est cool. Enfin... Comme nos états d'esprit, nos activités sportives, nos différents kiffs dans la vie, ça change. Voilà.
Complètement, exactement.
Trop bien.
Ouais, c'est ça, c'est accepter la fluidité de qui on est et ça passe jusque dans ce travail-là sur son corps. Quoi. Pour le poids, mon Dieu, je ne dis pas que c'est le meilleur conseil que je vais donner, mais c'est celui qui me vient à l'esprit, c'est suivez des comptes body positive. En fait, il faut remplacer notre imaginaire visuel. On a beaucoup trop, actuellement, un imaginaire autour de la minceur comme valorisé et valorisant. Ma mère m'a quand même dit... Je t'aime, maman, hein, mais bon. Ma mère m'a quand même dit récemment, tu m'as prouvé qu'on pouvait réussir et être heureuse en étant grosse. C'est-à-dire que, dans l'imaginaire général, être gros, grosse, c'est de base ne pas réussir sa vie. C'est être un échec. Et donc je me dis, je l'ai prouvé à ma mère que c'est possible. Donc je suis heureuse, amoureuse, successful. Enfin, j'ai tout pour moi et pourtant je suis grosse.
Elle est grosse ta maman ?
Non, mais ma chère mère a fait un régime à 18 ans après beaucoup de moqueries. Ça a été très très compliqué pour elle d'avoir des enfants qui grossissaient aussi, je pense. Parce que, enfin voilà, ça a été vraiment...
Elle a réussi à garder un poids maigre, stable, après ses 18 ans.
Ouais, complètement.
D'accord.
Et c'était vraiment une grande source d'inquiétude pour elle, pour notre santé, pour comment les gens allaient nous percevoir. Elle était très inquiète pour nous, en fait, qu'on soit gros. Et du coup, c'est des inquiétudes qu'elle m'a fait porter. Et j'ai vraiment... j'ai été un peu la preuve. J'ai pu prouver à ma mère... qu'on pouvait réussir sa vie sans maigrir. Et je pense que c'est ça le fond du truc, c'est que dans la société grossophobe, si tu es gros ou grosse, c'est que tu as échoué. Il y a un truc que tu as mal fait. Tu t'es pas assez bien occupé de toi, t'es trop resté devant la télé à manger des chips, tu vois. C'est malheureusement ça ce qu'il y a derrière la grossophobie.
Ouais.
Et donc, pour moi, mon conseil, c'est suivez des comptes de personnes grosses stylé. Sur Instagram, actuellement, il y a largement de quoi sortir de ce schéma narratif-là que grosseur égale échec. Et la seule façon, l'image est tellement puissante, c'est là que j'en reviens à mes études, l'image est tellement puissante que si on s'expose à certaines images, on va finir par les croire. Et donc du coup, exposez-vous à une grosseur stylée, à des personnes grosses stylées. Il y a moi, déjà. Il y a Harmonie Albertini, Body Posi Panda, Kenzie Brenna. Enfin, en fait, tu as le hashtag Body Positive sur Instagram ou sur TikTok et tu as mis des tonnes de comptes de personnes trop stylées. Donc moi, je pense que c'est un conseil très actionnable, tu vois. C'est basique. Juste ton fil Instagram, t'enlèves 2-3 mannequins Victoria's Secret, tu rajoutes 2-3 personnes grosses qui ont un discours super cool sur le sujet, quoi.
Ouais, puis ça normalise le sujet aussi, le fait d'en voir un peu tous les jours.
Exactement.
Ça devient plus quelque chose de ah oui, ça fait partie de ta vie au quotidien.
Et... C'est ça, c'est pas je suis moi un ovni parce que je suis grosse. Non, on est plein. On est plein à être grosse. Viens voir, tu vois. Te dis pas que tu dois absolument rentrer dans le camp des minces comme si on était une société divisée entre personnes minces et personnes grosses, quoi. Juste viens voir. Tu verras qu'on est bien aussi dans ce corps-là et qu'on peut l'aimer, ce corps-là, quoi. Et mon conseil pour accepter ses limites, je suis encore dedans, hein. Je donne encore beaucoup et parfois je regrette d'avoir beaucoup donné. Je dirais que...
Par exemple, avec si c'était à refaire, par exemple, cette histoire avec l'Irlandais, qu'est-ce que tu ferais autrement?
Je...
Maintenant, avec du recul, tu vois, ouais, si on prend une histoire qui est déjà passée, donc tu as eu le temps de faire ton chemin aussi depuis.
J'écouterais les signaux, parce que ma petite voix, elle était là, tu vois. Elle était, enfin, dans toutes mes histoires, ma petite voix, elle était là pour me mettre en garde sur ce qui s'est passé après, tu vois. De un vol de ukulélé à un viol, en fait, j'avais une petite voix qui était là en mode t'as pas envie, en fait, d'avoir ce mec-là dans ton lit. Et ouais, je dirais que c'est ça. Écouter sa petite voix qui te dit...
Pourquoi tu parles de viol, pardon, excuse-moi.
Ah bah, j'ai été violée par le péruvien.
Ah merde, et donc pas celui d'après, mais celui juste après, quoi.
Celui juste après.
Merde.
Et vraiment, je me souviens très bien que j'avais cette petite voix qui est en mode... Il t'attire pas, t'as pas envie de l'avoir dans ton lit, tu... Non, c'est... Tu n'as pas envie de ça.
Ouais, donc tu vois, le ukulélé, c'était peut-être la symbolique, enfin, qui a suivi par la suite, c'était la symbolique de plein d'autres choses, en fait, pour toi.
Ouais, tout à fait. Ah, ouais. Complètement, ouais.
Et même pas forcément lié qu'à l'Irlandais, mais d'une manière générale, vis-à-vis de toi aussi, de... Ok, c'est un symbole qui va m'aider, moi, à poser mes limites, et que derrière, du coup, plus personne... mais si je laisse passer ça, même si c'est un truc à la con, bah, si je laisse passer ça, je continue à laisser les gens piétiner sur ma zone, quoi.
Complètement. C'est accepter ses limites. Il y a aussi la notion d'accepter où est-ce que nous, on termine, et où est-ce que les autres commencent. Je peux pas me fondre dans l'autre, en fait. Et pour moi, donner beaucoup, ça peut être ça. Ça peut essayer de fusionner. Je sens que moi, c'est ça. C'est je donne parce que je veux fusionner avec l'autre, quoi.
Ouais, alors c'est tout ce qu'il faut pas faire, ouais.
Bah ouais, bien sûr.
C'est un autre sujet de podcast, on va pas... me lance pas là-dedans, parce que alors là... mais tout à fait, il y a une grande différence entre l'amour et la fusion.
Ouais.
Et le gros souci, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, depuis plusieurs générations, on nous apprend que la fusion, tout ce qui est lié au romantisme, en fait, l'idée qu'on se fait du romantisme au patriarcat et tout ça, c'est la fusion, donc ça veut dire... s'imbriquer l'un avec l'autre, et c'est plus deux personnes qui vivent des choses ensemble, c'est deux personnes qui doivent j'ai pas les bons mots là, mais qui doivent ne faire plus qu'un.
Mm-hmm.
Et c'est ça la grande différence, alors qu'en fait à la base c'est justement je vis des choses et je les partage avec toi et c'est trop cool, mais si t'es pas là, bah je serais triste que tu sois pas là, mais je vis quand même tout ce que j'ai à vivre. Et justement, bah, j'ai besoin de mystère dans la sécurité, j'ai besoin d'autonomie, mais j'ai aussi besoin de dépendance. Enfin, et c'est le bon équilibre de tout ça. Et quand il y a de la fusion, bah, il n'y a plus d'indépendance, il n'y a plus de mystère. Donc s'il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de désir intrinsèquement au fur et à mesure. Donc on se lasse. Bon, là, on ouvre plein de portes. Je vais pas aller plus loin parce que...
Oui, si tu veux, je suis pas d'accord avec tout, mais je sais très bien que si on se lance dans ça, on est foutu.
C'est parce que je développe pas là non plus, mais je pense que si on en parle, si on en fait tout un épisode, je pense qu'on peut se retrouver. Mais bon, c'est un sujet qui me passionne pour le coup, et tout ce qui est la fusion. Mais en effet, donc écouter sa petite voix.
Bah ouais, c'est ça en fait. C'est un peu.
Et comment écouter sa petite voix quand on n'y arrive pas, alors? Comme toi, tu n'y arrivais pas avant. Ça a été quoi ton déclic pour te dire ok, bah maintenant ma petite voix est plus importante que ce que veulent les autres?
Ah, c'est terrible, mais sur ça j'ai vraiment juste dû expérimenter des choses pas faciles, en fait. J'ai dû expérimenter de me faire rouler dessus, tu vois. Enfin, j'ai dû comprendre les conséquences de pas écouter ma petite voix. Donc après, bah je me dis, peut-être s'il y a 2-3 personnes qui écoutent ça et qui se disent ah, je vois de quelle petite voix elle parle, et je l'entends vaguement, j'entends pas très bien ce qu'elle me dit, mais je l'entends vaguement, je me dis bah si je peux vous éviter d'avoir des expériences un peu trop douloureuses, et que vous pouvez passer directement à la case un peu plus écouter la petite voix. Parce que la petite voix, elle m'a dit ne prête pas ce ukulélé parce que tu vas peut-être pas le revoir, parce que tu vois bien qu'il est pas stable, qu'il est alcoolique, qu'il fait n'importe quoi, qu'il annule vos dates à la dernière minute. J'avais déjà plein de signes pour pas prêter mon ukulélé, tu vois.
Bah déjà, il t'a dit non, j'ai bien compris, c'est pas une date, on va marcher, et puis en fait... déjà, ça commence là, quelque part, non?
Oui, tout à fait. Après, là, pour le coup, je pense qu'il était vraiment sincère.
D'accord.
Ouais, non, okay. Je vais pas lui prêter des intentions de manipulation qu'il n'était pas capable d'avoir. Il était trop con pour ça.
D'accord. Non, mais je suis pas dans l'histoire, mais si toi, tu dis que c'est pas le cas, bah, très bien.
Non, pour moi, il y a vraiment...
C'est toi qui sais.
Ouais, il y a eu un pivot, tu vois. Il y a eu un pivot de est-ce que je rentre chez moi ou est-ce que je rentre chez lui. Et j'ai vraiment eu une décision personnelle.
Ouais. Ok.
Où, pour le coup, la petite voix est en mode, ouais... Entendre des fuck en anglais, ça fait vraiment très bien.
Et puis ça, pour le coup, tu regrettes pas trop ce passage-là, donc pas c'est plutôt cool. Voilà. J'ai des petites questions pour finir. J'ai des petites questions de Coco, des petites questions un peu rigolotes. Histoire de finir un peu en beauté. Sur quelle musique, est-ce que tu te souviens de la dernière musique sur laquelle tu as embrassé? Ou d'habitude, est-ce que tu as une musique sur laquelle tu aimes bien faire l'amour?
Actuellement, j'ai pas de musique sur laquelle j'aime bien faire l'amour. Mais là, dernièrement, avec Léo, on a trouvé une playlist qui était vraiment bien, électro chill, qui était trop cool. Mais je me souviens pas de... Ah si, il y en a une qui est bien. Attends, elle s'appelle Salt. La dernière musique sur
c'est
laquelle...
C'est pas l'artiste qui s'appelle Salt? Ça me parle, ça.
Je vais te la retrouver en deux secondes. Si, avec un peu de chance, mon Spotify peut marcher. Sans être en... Salt de B. Miles. Okay. Album 2015.
Trop bien, je vais aller écouter.
Ouais, S-A-L-T, Salt. Et vraiment...
Trop chouette.
On a fait du sexe sur cette fameuse playlist dont je te parlais. Et cette musique-là, je me suis vraiment dit « Ah, il faudrait que j'aille vérifier laquelle c'est parce qu'elle est bien.
» Trop chouette. Quel est le livre de ta table de chevet actuellement?
Ça, c'est un autre sujet. J'ai « Conversation avec Dieu ». J'en ai trois. J'ai « Conversation avec Dieu » et j'ai « Nouvelle mère » de Cécile de Hertibigara.
Intéressant. Tu peux me dire vite fait de quoi ça parle?
Conversation avec Dieu, c'est un monsieur qui affirme que Dieu lui a parlé pendant 3 ans et qu'il a écrit 3 livres de cette conversation.
Ok.
Et c'est... J'adore. Je suis quelqu'un de très spirituel, donc c'est absolument fabuleux pour moi d'avoir l'impression que Dieu me parle, c'est génial. Et Nouvelle mère de Cécile de Hertibigara, c'est un témoignage sur la maternité, sur les 2 premières années de sa maternité. Et sur le fait que c'était horrible et qu'elle veut que ce soit un témoignage qui soit entendu parce qu'elle en a marre de que la maternité soit édulcorée. Et du coup, c'est vraiment... c'est un peu déprimant, mais au moins, c'est très sincère. Ouais.
Elle aborde le postpartum, des choses comme ça?
Ouais, complètement. On est vraiment on est dans le dur. Hein. On est vraiment sur le fait de détester son enfant parce que tu peux pas dormir, le fait... de se sentir seule, le fait d'avoir l'impression que t'es la pire mère de toutes. Enfin, elle fait vraiment... elle y va vraiment fort.
Ouais, mais c'est super qu'il y ait de plus en plus de femmes qui ouvrent la parole là-dessus, parce que ça, c'est un sujet extrêmement tabou. Enfin...
Complètement.
Ouais, moi, dans ma famille, on n'en parle pas trop, quoi. Enfin,
Oui, t'as ce truc de... Oh, c'était un peu difficile, on n'a pas beaucoup dormi. Ouais.
Voilà, moi, c'est ça. Hein.
Ouais.
C'était comment... J'ai oublié. Je suis là, mais t'es sérieuse? Non, je sais pas si on dit que c'est un peu traumatisant quand même.
J'étais tellement contente de t'avoir. Mais oui, mais on peut être content d'avoir un enfant et en même temps.
Et souffrir. Enfin, je vais pas mal le prendre en fait. Je veux juste me préparer psychologiquement. mais je crois que tout le monde a tellement peur que nos générations ne fassent plus de gosses qu'ils préfèrent nous.
C'est peut-être ça. Hein. Mais il y a un peu ce truc de. Mais non, mais il y a vraiment des gens qui disent si les femmes savaient, elles ne voudraient plus d'enfants.
C'est ce qui paraît, ouais.
Mais ça va, enfin, on est quand même pas si con que ça, si. Faut arrêter.
Oui, peut-être que j'en voudrais pas, même en sachant, enfin, même sans savoir tout ça.
Quoi. Oui, c'est ça.
Quel est le dernier souvenir que tu as en tête qui t'a excité?
C'était Eddie Redmayne en train de rigoler avec quelqu'un à un dîner d'une marque, d'une relation presse. C'est Léna Situation qui a partagé ça. Et vraiment, Eddie Redmayne, comment te dire que c'est l'homme de ma vie? C'est-à-dire que si, avec Léo, ça se termine, je déménage à Londres pour le trouver.
Bah oui, mais l'anglais, en plus, on y revient.
Il est british.
Mais oui.
C'est vraiment l'homme parfait pour moi. Et vraiment, cette vidéo de lui en train de rigoler à un dîner, ça m'a fait... plusieurs nuits.
Trop bien. Oui. Ok, je suis curieuse, tu me l'enverras, ça m'intrigue. Est-ce que tu as une pratique ou une curiosité sexuelle que tu as peut-être encore jamais faite, que tu aimerais explorer? Si jamais cette question est trop intime, tu n'es pas obligée d'y répondre.
Je vais y répondre avec grand plaisir, une orgie.
Ah, bah oui, l'orgie c'est très très cool.
J'adorerais, vraiment j'aimerais beaucoup.
Bah dis-moi quand tu reviens à Paris.
Ok.
Là, je peux... voilà.
Tu peux me...
On peut écrire des livres ensemble et faire des orgies.
Nice.
That's a plan, maybe. Et je peux te parler en anglais toute la nuit, si tu veux.
Put me out of my misery.
Oh, cette phrase, ça m'a tué. Et petite dernière question pour finir. Est-ce que qui vois-tu derrière ce micro? Ça peut être quelqu'un, un ami, une amie ou une influenceuse, un influenceur que tu connais, quelqu'un avec qui ça te ferait plaisir de mettre en contact pour faire cet épisode, un épisode avec lui ou elle.
Sur la sexualité, Clémity Jane. Tu l'as pas eu, Clémity Jane?
Non.
Sur la maternité, sur le rapport à son corps et à sa sexualité après avoir été maman, sur juste... Clémity Jane, c'est une amie qui est très proche, que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est elle qui m'a ouvert toutes les portes du monde de la sexo. Elle m'a filé le mail de passage du désir, tu vois, en 2020. Enfin, donc vraiment, c'est une femme extrêmement généreuse, qui est très talentueuse, qui c'est une businesswoman incroyable, elle mène tout. C'est d'une main de fer tout en étant complètement détendue. Et elle parle, elle a une façon d'aborder la sexualité qui est vraiment sobre, éducative et complètement déculpabilisante et dans l'acceptation de tous et de toutes, quoi.
Trop chouette.
C'est trop bien.
Trop bien, bah écoute, avec plaisir. Avec plaisir. En plus, là, comme tu m'en as parlé, ça me donne très envie de la rencontrer. Mmh. Elle a l'air très chouette.
Elle est très, très chouette.
Trop bien. Bah, merci beaucoup. Merci Lou.
Toi.
C'était trop chouette. Où est-ce qu'on peut te retrouver? On a un peu mentionné, mais redisons-le comme ça.
Loupche, L-O-U-P-C-H-E, sur YouTube, Instagram et TikTok.
Trop bien. Et bah, les cocos, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai passé un super moment. Franchement, c'est trop marré.
J'ai pas vu le temps passer.
Je crois qu'on est parti pour faire 2 épisodes. Hein.
Je pense, hein.
Clairement. Et si vous voulez me retrouver pour ma part, donc c'est sur podcast, tous les podcasts que vous voulez, Deezer, Spotify, etc. Je suis aussi sur YouTube. Sur YouTube, vous verrez Lou qui joue avec le plumeau la plupart du temps de la vidéo. Et aussi, alors si vous voulez aller un peu plus loin, donc comme vous le savez maintenant, je fais des accompagnements, les Better Call Coco, donc c'est coup de fil. Dans lesquels vous pouvez m'appeler et on va discuter ensemble, on va mettre en place un plan d'action pour vous donner le petit coup de pied au cul pour aller plus loin, passer à l'acte dans tout ce que vous voulez entreprendre. Donc ça peut être du développement perso, mais après moi j'aime bien axer en fait par le biais de l'imaginaire. Mmh. C'est vraiment mon truc parce qu'il y a de l'audio dans ce que je fais un peu d'histoires immersives dans lesquelles je vous embarque, que j'écris à quatre mains avec vous. Donc c'est vraiment hyper personnalisé et toute l'idée en fait c'est d'apprendre à se connaître et d'apprendre à connaître ses besoins, ses désirs, ses limites.
Trop bien, t'accompagnes dans la visualisation du coup?
Ouais, je fais de la visualisation aussi.
C'est très puissant ça, de visualiser sa vie de rêve, c'est trop bien.
Ouais, bah, je fais vraiment ça avec du coup la création d'un alter ego. Donc du coup, voilà, qui suis-je maintenant? Qui est-ce que je voudrais être? Donc comment passer du monde ordinaire au monde extraordinaire? Et c'est très fun. Ouais, on fait ça en plus en toute détente, on se marre bien, donc c'est
trop
cool.
Bien.
Donc voilà, si vous voulez prendre rendez-vous, tous les liens sont dans la description. Et puis je vous dis à très bientôt.
Merci Coco.
Merci Lou.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stephens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.